Qui veut tuer l'immobilier en France ? Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 13 avril 2022.
Retour sur le plateau d'éthique sur ce colloque a-t-on tué, qui veut tuer l'immobilier avec toujours des invités hors pair. On a le plaisir d'accueillir Jean-François Copé, ancien ministre du budget, maire de Meaux et avocat en droit chez Everlotax. Jean-François Copé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre invité. Et puis en plateau également Sophie de Manteau, présidente d'éthique, qu'on ne présente plus bien sûr. Jean-Marc Thoreau-Lyon, président de la FNAIM. Alors, vous allez rebondir, mais on le disait à l'instant, pour construire une ville, il faut 20 ans. Eh bien, vous êtes à même, Jean-François Copé, de nous montrer un magnifique bilan, parce que Meaux est souvent cité comme une ville référente, un cœur historique bourgeois encadré par deux cités dures. Quand vous êtes arrivé, en quelques années, vous avez mené une politique de rénovation urbaine très active. Quels ont été les axes de votre politique ?
Ben, écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que cette rhétorique selon laquelle les quartiers difficiles, c'est fichu, on n'y arrivera jamais, en fait, on est capable de montrer qu'elle est fausse. Il y a une vraie solution.
Il n'y a pas de fatalité.
Non seulement il n'y a pas de fatalité, mais il y a un vrai mode d'emploi, à condition, naturellement, d'avoir en tête qu'on est, quand on est maire, comme un commandant de bord, avec un tableau de bord, et il y a des indicateurs. Et vous avez la sécurité du quartier, vous avez la rénovation urbaine, vous avez la culture, le sport, l'emploi, l'insertion. Et il faut faire tout marcher en même temps. L'erreur, ce serait de ne faire que de casser une tour ou de mettre une caméra de sécurité. Non, non, c'est tout en même temps. Et en fait, on a entrepris à Meaux de le faire dans une ville, vous l'avez rappelé, qui était vraiment la ville caractéristique type de ces villes en difficulté. On avait 56% de logements sociaux sur la moitié, sur la ville, 56%, dont 100% sur la moitié de la ville, 20 tours, construite dans les années 50-60, et pour certaines d'entre elles, ce qu'on appelle des caravelles, c'est-à-dire une grande tour avec des barres qui la relient, et l'ascenseur qui s'arrête tous les trois étages, donc vous imaginez, et c'était devenu de véritables, en fait, ghettos, au sens où les habitants qui y sont, bah, ils se sentaient totalement prisonniers de tout, y compris de la délinquance qui avait pris un tour absolument extrême.
Vous n'avez pas peur des causes difficiles,
si vous avez vu Bac Nord, vous avez exactement, dans les quartiers nord de Marseille, cette configuration. Vous me dites, vous n'avez pas peur des défis difficiles. C'est Jacques Chirac qui nous y avait envoyé, un certain nombre d'entre nous, la génération des bébés Chirac, pour nous envoyer conquérir ces villes dont il considérait que c'était un peu l'équivalent des Corrèze désertifiées des années 60. Les grands défis, c'était les défis des banlieues. Et par exemple, Pierre Bédier à Mantes-la-Jolie, votre serviteur à Meaux, mais également d'autres de nos amis, Jacques Chirac, il nous a envoyé pour essayer de proposer une autre politique. Et on ne dira jamais assez le travail énorme qui a été fait, par exemple, par Jean-Louis Borloo, avec cette idée de créer une agence nationale qui regroupait les crédits, parce qu'avant, on saupoudrait pour des associations, etc. Là, on a regroupé massivement des crédits pour de la rénovation massive. Et donc, la martingale gagnante, comme on dit en économie, c'est quoi ? En même temps, casser les tours, y mettre à la place des immeubles de 4 étages. Là où vous n'avez que des logements sociaux, vous mettez de l'accession à la propriété. Vous veillez à ce que la qualité de construction, aussi bien pour les immeubles en accession que pour les logements sociaux, soit de même niveau. Vous mettez des caméras partout, avec une police municipale armée. Vous mettez des espaces culturels, des lieux de sport, une zone franche pour défiscaliser les entreprises qui embauchent les gens du quartier. Vous lancez des programmes un peu à l'américaine, un peu globaux, sur l'insertion, la formation. Vous veillez à chaque fois à rappeler les règles de la République, droits et devoirs. Et au bout d'un certain nombre d'années, vous n'avez plus la même ville. J'avais 20 tours, il n'en reste plus que 4 à démolir, mais c'est déjà plus la même ville. Et là où on avait des scores considérables du Front National il y a quelques années, y compris aux élections locales, ça n'est plus le cas aujourd'hui.
Sophie de Manteau, quand on l'écoute, ça paraît simple.
Alors j'avais envie de dire fastoche. J'avais envie de dire d'abord, vous feriez mieux, monsieur le ministre, de monter une entreprise, et de monter une entreprise pour apprendre aux maires à faire ça. Je pense qu'il y a un savoir-faire incroyable. J'étais en train d'écouter un entrepreneur, là, parce que ce que vous racontez, c'est une entreprise qu'on monte, vraiment.
Absolument, oui.
Ensuite de ça...
Il y a beaucoup de points communs, sauf que nous, c'est de l'intérêt général.
Alors, Justement, j'allais vous parler d'intérêt général. Je suis très troublée parce que mon ennemi, c'est un peu l'État dans tout ce qui...
Ça, je savais, ça.
Oui, oui. Enfin, un État qui est partout et qui ne devrait pas l'être. Un État régalien dont on ne définit pas les missions. Une campagne, d'ailleurs, sur laquelle on ne parle absolument pas de tout ça. Et ça m'intéresse d'autant plus que je crois que ce que vous racontez et notre colloque, c'est aujourd'hui, finalement, le socle des problèmes français. Que ce soit par rapport au travail, que ce soit, on l'a redit tout à l'heure, par rapport au logement des Français, que ce soit par rapport au financement, que ce soit surtout par rapport au rôle de l'État. Donc, vous me troublez beaucoup parce que j'ai envie de dire que, et vous ne me contredirez pas, que les lois permanentes, et la dernière table ronde n'a fait qu'évoquer ces sujets, la fiscalité qui tout d'un coup dit non, là on n'a pas le droit, les gens qui peuvent plus louer leur logement parce que les impôts sont trop élevés, le rôle de l'État, généralement, est contre-productif.
Mais vous n'allez pas lui demander de défendre l'État actuel. Il va peut-être déjà voter à
contre-cœur. Non,
ça m'intéresse beaucoup parce que quelle est la place ? La collectivité, alors dernier point, la collectivité locale, vous faites la preuve qu'elle peut être géniale. Je suis désolée, le maire, élu, formidable dans la petite ville moyenne, etc. Mais comment voulez-vous qu'il sache comment s'y prendre ? Alors, il n'a pas les compétences pour ça. Alors, vous avez été ministre du budget, ça peut aider. Hein.
D'accord. D'abord, Sophie, juste je rebondis parce que vous avez dit voter à contre-cœur. Non, je ne vote pas à contre-cœur, je vais voter Emmanuel Macron parce que je crois qu'il faut quand même que chacun prenne la mesure qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce n'est pas du tout pareil. Hein. Et que quand j'entends un certain nombre de gens dire ah ben non, c'est pas grave, on va aller, on va s'amuser.
Elle a supprimé l'impôt sur les
immobilier. On va voir. Oui, elle va rétablir, elle va supprimer la flat tax également, oui. Hein, pour ceux qui nous écoutent. Mais bon, indépendamment de ces aspects-là, il faut que chacun mesure ce que ça voudrait dire pour la France dans le monde et puis pour la France tout court d'avoir une présidente de la République issue de l'extrême droite. Voilà, je crois quand même que de temps en temps, c'est bien qu'on atterrisse tous. Et le cas échéant, on a 10 jours, on peut relire les livres d'histoire. C'est pas interdit, c'est même tout à fait recommandé. Donc, pour revenir maintenant à notre sujet. D'abord, Sophie, si je peux me permettre, il n'y a pas d'un côté les entrepreneurs géniaux et de l'autre les maires un peu débiles.
Ah mais pas du tout.
Vous avez en réalité ça. Des entrepreneurs qui parfois peuvent être décevants.
Il y a des entrepreneurs maires.
Rarissimes, mais ça peut arriver. Et puis alors vous avez des maires,
ceux qui sont
c'est
maires.
Incroyable. Même si au début mais ils n'ont pas tous les éléments, mais assez vite ils comprennent. Et vous savez pourquoi ils comprennent assez vite ? Parce que comme il n'y a personne pour leur expliquer, c'est un peu l'image. Vous savez, moi je vous donne cette image, je me parle beaucoup du GI, vous savez, parachuté le 6 juin 44 à Sainte-Mère l'église, et à qui on dit, bah écoute, t'as une boussole, t'as une carte, tu vas à Berlin, tu te débrouilles. Voilà. Et bah c'est un peu ça. Et objectivement, il nous arrive quand même en tant que maire de trouver les solutions. Et puis la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une jurisprudence. Il y a une expérience. Et nous, on marche beaucoup quand on est maire au retour d'expérience. Alors là où je vous rejoins à 100%, c'est qu'il y a un décalage fantastique entre ce que le maire à gérer au quotidien comme type de problème, et la manière dont des fonctionnaires d'État, voire des ministres, par ailleurs sympathiques, hein, voire frais et printaniers, quand ils sont marcheurs, ils arrivent, ils expliquent des tas de trucs alors qu'ils ne sont pas toujours très au point, mais le décalage est total. C'est-à-dire qu'en vérité, vous avez d'un côté ceux qui font, et puis de l'autre ceux qui disent comment il faudrait faire.
Et ceux qui défendent.
Et, ou qui, le cas échéant, défendent, ou bloquent, ce qui est encore pire. Donc en réalité, moi je suis très frappé de voir que cette campagne présidentielle, où nous voyons cet affrontement un peu improbable en ce moment, bah en réalité, l'un des rares sujets dont on ne parle pas, alors qu'il est majeur parce qu'il ruisselle sur tout le reste du pays, c'est comment est-ce qu'on réussit à mettre dans la République des quartiers entiers, des populations entières qui ne demandent que ça, contrairement à ce qu'on raconte, mais à qui on ne donne jamais les codes d'accès. Et comment on fait pour y arriver ? On les considère, les gens. Et pour les considérer, il faut leur proposer un quartier dans lequel ils vivent, dans lequel ils n'ont pas peur les uns des autres, de telle sorte qu'ils peuvent se parler, s'écouter, se respecter, des habitats à taille humaine qui leur donnent la perspective même de devenir propriétaires, et last but not least, de veiller à ce qu'il y ait sur place, par exemple, des équipements culturels. Si vous saviez le mal que j'ai eu à imposer, parce que c'était bien le mot, heureusement, ça vous avez bien fait de le dire, que j'avais, à l'époque, des connexions nationales qui faisaient qu'on faisait un peu attention à ce que je racontais. Lorsque j'ai décidé de démolir ma première tour, elle s'appelait Chenonceau. Et vous avez devant vous quelqu'un qui a démoli Chenonceau. Bon, après, j'ai fait Cheverny. Vous voyez, comme ça, on est tranquille.
C'était et Chambord, bientôt.
Ça commençait par... Et Chambord, c'est en 2024. Mais absolument, en gros... C'est simple, les génies de l'urbanisme de l'époque avaient imaginé de couper cette partie de Meaux en trois, donc quartier A, quartier B, quartier C. Non, mais objectivement, c'était ça. Et donc, le quartier C dont je m'occupe en ce moment, eh ben, vous aviez Chambord, Cheverny, etc. Bien. Donc, quand j'ai démoli la première tour, le ministère de l'Équipement m'a envoyé un type très sympathique fait des très très bonnes écoles, très bon en maths. Il me dit, écoutez, monsieur le maire, combien vous allez reconstruire de logements à la place de la première tour des Molinets ? J'ai en fait zéro. Il dit, mais comment ça zéro ? Je dis, oui, non, on va faire un parc. Parce qu'il n'y a jamais eu de parc. Et donc, les gens vont se retrouver dans ce parc. Et on va l'appeler d'ailleurs le parc Chenonceau. Alors là, il était un peu choqué. Il m'a dit, bon, bah, je ne me laisserai pas avoir, a-t-il dû penser sur la deuxième tour ? Et quand j'ai démoli la deuxième tour, il m'a dit, combien de logements, là, cette fois ? Ah, je dis, vous n'avez pas compris. La deuxième tour que je vais démolir, je vais mettre un espace culturel.
D'accord,
on va
mais
y mettre une salle de spectacle, on va y mettre une salle de danse, on va y mettre une médiathèque. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, ils n'ont pas besoin de culture, ils ont la télé. Et là, je me suis dit qu'il y avait un décalage abyssal.
Oui, mais alors, où est-ce que vous avez mis, parce que la question est vraiment là, où est-ce que vous avez mis, pendant que vous fassiez tout ça, les gens qui habitaient ces logements sociaux ?
Ah, c'est une des questions clés. En fait, il faut bien comprendre que ces tours, que ces bars, que ces caravelles, elles sont à moitié vides. Parce que les gens qui peuvent s'enfuient dès que possible. Et en réalité, ne restent que ceux qui ne peuvent pas partir. Et parmi eux, ben, y a ceux qui ont des dettes de loyer. Quand vous avez une dette de loyer, vous pouvez pas quitter votre logement parce que vous n'avez pas le droit d'en avoir un autre. Donc, il y a une accumulation de désespérance. Il y a des familles qui ne savent plus à quel saint se vouer. Et puis, vous avez du coup des lieux entiers dédiés au trafic de drogue. Parce que quand vous visitez ce type de bâtiment, vous comprenez qu'on peut mettre la drogue partout. Et qu'il n'y a jamais assez de force de police pour intervenir. Donc, c'est pour ça qu'on les casse. Parce que quand vous mettez de l'habitat aéré...
Vous les mettez où en attendant ?
Dans les tours d'à côté. On a organisé un système par lequel, petit à petit, et maintenant on n'a plus besoin, parce que maintenant, ça y est, on les vide, et elles sont remplacées par des immeubles construits, puisqu'on a suffisamment de foncier pour le faire. Vous voyez ? Et donc c'est ça qui a tout changé. Parce qu'on dit, ah oui, mais quand on enlève une tour de 15 étages, on ne peut pas reconstruire sur place. Ce qui n'est pas totalement faux. D'abord, on a construit un peu ailleurs, on en a mis en centre-ville. Mais surtout, en fait, ça libère énormément de foncier, une tour. Énormément. Quand vous la démolissez, vous avez plein de places et on peut y mettre une crèche, on peut y mettre une résidence pour personnes âgées, on peut y mettre une école, enfin, il y a beaucoup de places.
Alors, de sa tour de l'AFNAIM, Jean-Marc Torelion va nous dire si effectivement, travailler avec des maires qui ont des volontés politiques aussi fortes que ça, c'est courant, c'est le bon mode d'emploi, c'est ce que vous souhaitez pour l'avenir ?
Écoutez, d'abord, en écoutant Monsieur le ministre, je me disais, 20 ans, c'est le temps long. Et c'est le temps long pour construire une politique. Et c'est bien le problème dans l'immobilier. Je crois que c'est une industrie du temps long et il faut bien le comprendre à tout niveau. Et vous venez de l'illustrer par la persévérance de votre action. La deuxième chose que je me disais, c'est que un maire, c'est central, mais on le sait tous. Moi, je viens de Grenoble. Je peux parler à contrario, si vous voulez. Quand on voit finalement aujourd'hui la perméabilité du not in my back chez les maires de France, ça m'inquiète beaucoup. Parce que, en réalité, la France, elle ne manque pas de terrain à bâtir, elle manque de droits à construire. Et il y a quand même une vraie responsabilité des maires de ce point de vue-là. Un maire bâtisseur, un maire qui a une vision sur sa ville, c'est déterminant.
Bien sûr.
Ce que je relève aussi, c'est que en vous écoutant, je me disais, mais comment vous allez faire avec le zéro artificialisation net ? Parce que détruire des tours, ce qui est déjà dans la culture immobilière française, détruire l'immobilier, c'est des choses qu'on ne fait pas couramment. Pour finalement essayer de reconstruire, tout en ayant une allocation de la ressource foncière pour des espaces culturels, c'est-à-dire des équipements collectifs, pour des espaces de loisirs, c'est-à-dire, et de convivialité, c'est-à-dire un parc, et finalement la nécessité d'accueillir ou de reloger, le zéro artificialisation net, qui est une forme de recentralisation de la part de l'État du droit à construire des maires, va être quand même un vrai problème. Et puis, permettez-moi aussi de parler, et je trouvais très intéressant, monsieur le ministre, parc privé, parc social. Moi, je préfère qu'on dise logement public et puis logement privé. Parce que le logement public, il est pas fort, il peut ne pas être que social. D'accord. Et le logement privé peut ne pas être... peut être lui aussi très social. Et donc là, il y a une forme de perméabilité que nous devons trouver. Et puis la sécurité. On a fait un sondage, nous, chez les jeunes. Quel est le premier critère pour vous en cas d'acquisition d'un bien immobilier ? Le premier critère, monsieur le ministre, la sécurité.
Et bien sûr.
Et donc, quand je vous ai entendu, effectivement, rétablir la sécurité, c'est éviter le déclassement d'un certain nombre de logements et les rendre de nouveau abordables et, qui séduiront vos concitoyens.
Permettez de rebondir sur deux ou trois des points que vous évoquez qui sont, à mon avis, vraiment au cœur du sujet. D'abord, un rapport au temps. Moi, j'ai fait un choix qui était de rester maire. tant que mes administrés me confirmaient leur confiance. Parce que je pense que c'est dans la durée qu'on peut faire des choses. Et autant,
ils ont compris
tout
de suite.
Bah, en tout cas, ils ont décidé de me garder. Et surtout, c'est ça qui m'a beaucoup touché, de me donner des scores, et puis des scores aux élections qui montraient une confiance hyper forte. Enfin, là, Mélenchon, à Meaux, il fait 37%, mais il y a 2 ans, au municipal, mes administrés, dans ces mêmes quartiers, ils m'ont réélu au premier tour avec parfois 82% des voix. Donc, c'était extraordinaire. C'est hyper émouvant. Parce qu'on se dit, bon, bah, donc, ça veut dire que la politique, ça sert à quelque chose. Et c'est vrai que moi, je fais la part des choses entre le caractère profond de la politique territoriale quand on est maire, président d'agglo, et le caractère terriblement superficiel et parfois terriblement médiocre de la politique nationale, où on se rend compte que les choses ne sont qu'effleurées, qu'on va préférer la petite punchline, qu'on va accepter des débats dans des chaînes info avec alors qu'on a une certaine expérience avec trois gilets jaunes qui vont vous insulter, etc. Et là je me dis c'est pas possible d'accepter ça. Et donc la politique locale, c'est un rapport au temps qui vous permet de faire des choses. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, je ne sais pas comment il faut appeler logements sociaux ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, le vrai partage, je le fais entre logement social et accession à la propriété. Voilà. Parce que, après, on peut être locataire dans le privé, etc. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée que là où j'avais 100% de logements sociaux, dans la moitié de la ville, j'ai désormais, dans ces mêmes quartiers, un marché immobilier, parce qu'il y a des gens qui ont accédé à la propriété.
Et pourquoi ça, on ne peut pas acheter sur logement social?
Ah si, on peut, bien sûr, il y a des programmes de vente, bien sûr, mais à ce moment-là, il devient propriété privée, bien sûr.
Voilà.
Pour finir, parce que ce troisième point que vous avez évoqué est cardinal, rien n'est possible sans la sécurité, rien. Moi, j'ai créé de toutes pièces une police municipale armée qui, en rapport par habitant, est une des toutes premières de France. Nous avons 320 caméras, nous avions 110 crimes et délits pour 1000 habitants par an il y a 10 ans, nous avons aujourd'hui 52. Nous avons diminué par 2 la délinquance à Meaux, avec des interventions permanentes, avec des taux d'élucidation, c'est un critère très important, qui est moyenne nationale à 27%, nous sommes à 52%. Bah, évidemment, il y a des caméras partout. Et derrière, des professionnels qui font intervenir des équipes. D'ailleurs, moi je dis souvent à mes administrés, souriez, vous êtes filmés. Ce qui donne tout de suite une très bonne atmosphère dans une ville où les gens se retrouvent. Et du coup, quand on crée un événement festif, culturel, on vient en famille parce qu'on sait qu'il n'y aura aucun risque. J'ai créé une plage de toutes pièces au bord de Marne où les gens viennent de tous les quartiers parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'y retrouver. Et donc là, on retrouve la République. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire quel dommage que dans cette campagne présidentielle, ces sujets n'aient jamais été abordés. Je prends un exemple tout bête. Si demain, un président de la République veut régler le problème de la sécurité au quotidien, qu'il oblige toutes les villes de plus de 10 000 habitants à avoir une police municipale armée avec des caméras. Ils participent au financement. Vous n'avez plus la même ville. Parce que les policiers municipaux, ils sont bien souvent issus de la ville. Ils sont embauchés, formés, extrêmement bien encadrés, parce que les critères de recrutement sont très exigeants. Et ils restent. Alors que les policiers nationaux, ils ont une autre mission. Et ça change tout.
Je reconnecte avec le contexte actuel, dont les propositions des candidates. Valérie Pécresse proposait de créer un comité de l'âge pour diviser par 3 les codes qui contraignent la construction. Hein, on parlait du logement public il y a un instant. Est-ce que vous attendez à ce que le prochain président mette en œuvre ce type de mesure?
Moi, j'adorerais. C'est moi qui étais chargé par Valérie de faire son programme de politique de la ville. Donc, inutile de vous dire que tout ça, ça me parle, puisque j'ai été pour beaucoup dans tout ça. Elle a fait un très bon discours sur ce sujet, d'ailleurs, à Meaux, pendant la campagne. Le seul problème, c'est que nous sommes en présence de 2 candidats en finale de cette présidentielle, qui, pour l'une, a une vision exclusivement idéologique, donc à partir de là, c'est même pas la peine. Donc elle n'utilise pas le grand remplacement, ça l'a laissé à Zemmour. Enfin, l'idée, c'est, grosso modo, il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Ce qui est absurde. En vérité, il y a des réserves d'énergie extraordinaires de jeunes Françaises ou Français issus de l'immigration qui ont envie de s'en sortir et qui n'attendent pas grand-chose comme signal pour y arriver. Je peux en témoigner tous les jours. Et je suis l'inventeur du concept de droite décomplexée.
Cela dit, laisser
je vous en parle très librement.
Oui, mais laisser rentrer sans arrêt, avoir une politique où on laisse rentrer tout le monde, on n'a pas de boulot à leur donner, etc., c'est un vrai problème aussi.
Mais Sophie de Menton, je ne vous parle pas de ça. Ils sont arrivés, les gens. Ah non, et depuis très longtemps.
Mais ils continuent
c'est
à arriver.
C'est de cela dont je parle. Mais non seulement ils sont arrivés, mais ils en sont à la 3e génération.
Mais on est très contents, on les emploie dans nos boîtes, et on est très contents.
Et bien c'est de cela dont je parle. Moi, la politique migratoire,
oui,
c'est
autre
chose.
Mais les autres, ce sera le prochain débat.
Moi, je voudrais réagir sur les normes. Parce qu'en fait, la grande norme qui menace le parc privé existant, c'est climat et résilience et l'interdiction de location des G et des F à très brève échéance. Et si je me permettais de donner un conseil aux maires de Meaux, comme à tous les maires de France, c'est de dresser, mais très rapidement, la cartographie de l'indécence énergétique du parc de leurs administrés. Et ils se rendraient compte que dans moins de 3 ans, 1 million de logements ne seraient plus louables et que d'ici 2028, on aurait 3 millions de logements qui seraient plus louables dans le seul parc privé locatif qui est essentiel pour la mobilité des Français aujourd'hui.
Vous avez totalement raison.
Et je vous invite donc, monsieur le maire,
façon,
à nous aider.
Je voulais que je vous dise, on ne sera jamais prêt.
Pardon,
à
nous aider à préciser, parce que je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par un gérant.
Eh bien, la loi climat et résilience qui a été votée par nos parlementaires, d'ailleurs avec une très large majorité, initialement, elle a été faite avec une étude d'impact où il s'agissait de mettre les logements classés G, en termes d'indécence énergétique,
en
F. Et on est sorti avec des interdictions de louer qui s'étalent de 2025 à 2034. C'est le fameux diagnostic de performance énergétique qui classe votre logement avec un double effet de seuil. Je ne veux pas rentrer dans la technique. Moi, je veux simplement alerter ici tous les élus qu'il y a un calendrier qui est intenable juridiquement, économiquement, techniquement, et qu'il faut absolument desserrer cette contrainte. Sinon, nous allons avoir demain des centaines de milliers de locataires qui vont recevoir un congé pour vente où on ne pourra plus relouer ces logements qui, bien qu'indécents énergétiquement, sont par ailleurs très confortables. Et je vous invite, monsieur le maire, à dresser cette cartographie de l'indécence énergétique pour pouvoir peser dans le débat et adopter le calendrier européen qui est beaucoup plus pragmatique.
Pour avoir une bonne connaissance des mécanismes de fonctionnement de la législation nationale, j'en ai été pour beaucoup à un certain moment de ma vie, je confirme que l'on n'y arrivera pas. Et que donc, à un moment ou à un autre, vous aurez un président de la République qui dira « bon, ben, on va faire un moratoire, on va décaler, etc. » Ce qui ne règle pas le problème, puisque de toute façon, notre sujet de fond, c'est comment on construit demain des bâtiments qui sont parfaitement aux normes et comment, pour aujourd'hui, on met les moyens pour la rénovation de ceux qui ne le sont pas. On est sur un nœud gordien. Et le problème, c'est qu'on fait peser ça sur les épaules des Français qui n'ont rien demandé à personne et à qui on explique que c'est de ta faute si la planète est polluée, excusez-moi. Bon, voilà, notre sujet, il est là. Et donc, on est face à cette difficulté. Et pour ce qui me concerne, je pense que vous avez tout à fait raison, il faut absolument qu'on soit beaucoup plus pragmatique. Le problème, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on veut toujours sauver le journal de 20h. Donc on préfère voter n'importe quoi pour que ce soit rassurant pour le 20h. Tout le monde l'a oublié le lendemain. Et c'est après qu'on paye ça des années parce qu'on a
bloqué le système.
C'est
pour ça que les Français vont peut-être s'en remettre aux maires qui, eux, seront capables de tirer la sonnette d'alarme.
Il est bientôt 11h et non 20h et on fait des débats intéressants grâce à vous. Il a été innovant, le maire de Meaux. On va passer à la table ronde sur l'innovation pour sauver l'immobilier. Merci Jean-François Copé, ancien ministre du budget, maire de Meaux, avocat chez Evalo Tax. Vous restez avec nous si c'est possible. Merci Sophie de Monton et merci Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM, pour cette éclairage à cette question toujours très difficile. Qui veut tuer l'immobilier en France ? En tout cas, ce n'est pas vous. Restez avec nous. Merci beaucoup.